Le journal Hélène Philly, bonjour.
Bonjour à tous. Les derniers jours pour s'organiser avant l'obligation du pass sanitaire pour certains salariés. Les employeurs jonglent avec les tableaux de service et quelques récalcitrants. Alors que le variant Delta et la faible couverture vaccinale contraignent la Polynésie française à reconfiner pour 15 jours au moins les écoles fermées.
Et puis dans le grand entretien, Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, Bruno Lina, virologue, professeur au CHU de Lyon, reviendra avec eux sur cette deuxième rentrée scolaire sous Covid. Faudra-t-il vacciner les plus petits? La troisième dose est-elle une priorité? À quand le bout du tunnel? Deux membres du conseil scientifique au micro inter à 8h20. Et au bout du fil, vos questions, vos interrogations, chers auditeurs, on vous attend comme toujours. 01 45 24 7000.
Dans ce journal, encore les mêmes images de chaos terrible à l'aéroport de Kaboul en Afghanistan. Joe Biden, le président américain, évoque des discussions en cours pour un maintien de soldats sur place au-delà du 31 août. Après les fusillades du week-end à Marseille sur fond de trafic de drogue, le maire souhaite la création d'un parquet spécial. Et puis la fin de match affligeante entre Nice et Marseille hier soir en Ligue 1 de foot. Jette bouteille, pelouse envahie par les supporters. On va y revenir. Le sport avec du sourire, c'est sur la plage qu'on va le trouver. Kevin Mayer, médaille d'argent en décathlon aux Jeux Olympiques, a fait découvrir sa discipline à plusieurs centaines de personnes hier en Vendée.
France Inter.
Ils ont le nez dans les tableaux de service, les patrons de bars, directeurs de musées, gérants de compagnies de cars. Dans une semaine, ils vont devoir demander un pass sanitaire à leurs salariés, vaccination ou test régulier. Ceux qui travaillent en contact direct avec le public auront à montrer patte blanche sous peine de voir leur contrat de travail suspendu. La menace sévère a-t-elle eu un effet et quelles conséquences économiques de la mesure? Réponse avec Claire Chaudière.
Avec 40% de conducteurs et conductrices non vaccinés début juillet, ces dernières semaines ont pris l'allure d'une grande course contre la montre, explique Alexandre Anselmino, directeur d'une flotte d'autocars longue distance. Mais désormais, la quasi-totalité de ses salariés, se réjouit-il, est dans les clous.
Moi, je dirais que 95% des conducteurs sont vaccinés aujourd'hui. Sous la pression. Après, voilà, ceux qui n'ont pas terminé, ils font des tests PCR le temps d'avoir le pass sanitaire. Et si vraiment je tombe sur quelqu'un qui dit « moi, je ne veux pas me faire vacciner », quoi qu'il arrive, et aujourd'hui, on a quand même la chance de remettre sur une autre activité. On est aussi la ligne régulière, réseau urbain.
Beaucoup moins détendu, Yves Larouture, restaurateur dans les Pyrénées-Atlantiques et représentant local de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, a consulté son équipe, déjà en sous-effectif, verdict.
Sur 10, j'en ai un qui va démissionner parce qu'il ne veut pas se faire vacciner. Et j'en ai deux autres qui n'auront pas tout à fait les deux vaccins.
Et dans l'hypothèse où leur passe ne serait pas valable faute de tests réguliers,
on essaiera de voir avec des périodes de congés. On n'a pas envie de perdre nos employés, quoi. On a déjà de gros soucis de recrutement. On sera obligé de refuser des clients.
Autant de complications qui pourraient être évitées, suggère cet aubergiste, avec un délai supplémentaire de 15 jours, 3 semaines, demande partagée, dit-il, par une partie de la profession.
Globalement, tous les professionnels dont le métier implique un contact avec le public devront présenter un pass sanitaire dans une semaine. Certaines professions restent tout de même exemptées. C'est le cas, par exemple, des livreurs, chauffeurs-livreurs et des enseignants. Des unités mobiles ont été installées un peu partout cet été pour faciliter l'accès à la vaccination. Et la campagne de rappel déjà se profile, réservée aux personnes les plus fragiles à ce stade à partir du 15 septembre. Mais ne faut-il pas l'étendre à d'autres publics? Ce que prévoit déjà Israël ou les États-Unis. La Haute Autorité de Santé en France doit se prononcer avant le Conseil de défense sanitaire de mercredi, Hélène Chevalier.
Pour le moment, 5 millions de Français sont concernés par cette campagne de rappel. Les résidents des EHPAD et unités de soins longue durée, mais aussi les personnes de plus de 80 ans à domicile, les immunodéprimés ou celles à très haut risque de formes graves comme les patients dialysés, transplantés ou atteints d'un cancer. La Haute Autorité de Santé doit, dans son avis, déterminer s'il serait pertinent d'intégrer d'autres groupes, par exemple certaines comorbidités ou infections longue durée, voire abaisser l'âge minimal de ce rappel à 70 ans. Lors d'un précédent avis, le 15 juillet, dernier, la HAS estimait que les données disponibles à ce jour ne permettaient pas d'évaluer précisément l'impact ni la nécessité d'un tel rappel pour la population générale. Concernant la logistique, les responsables des EHPAD peuvent commander dès aujourd'hui leurs flacons. La vaccination se déroulera à partir de la mi-septembre, comme lors de la première campagne au sein des établissements. Pour les autres personnes visées, les créneaux de rendez-vous seront ouverts aux alentours du 1er septembre. Le ministère de la Santé précise que les vaccinés avec Pfizer-BioNTech pourront pourront, s'ils le souhaitent, bénéficier d'une dose de Moderna.
Et face à une flambée de l'épidémie, la Polynésie française ferme ses écoles à partir d'aujourd'hui. Les commerces non essentiels, les activités de loisirs, les restaurants, les bars baissent le rideau pour 15 jours au moins. Le variant Delta qui bouscule l'été, la reprise en main de l'Afghanistan par les talibans, une actualité lourde ces dernières semaines, difficile dans ces conditions de rester absent. Le chef de l'État qui revient du fort de Brégançon aujourd'hui n'aura pas vraiment pris de vacances, Simon Le Baron.
On l'a vu en vidéo sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, répondre aux doutes sur le pass sanitaire et les vaccins.
Faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner.
On l'a vu à la table du Conseil de défense prendre des mesures contre l'épidémie dans les Outre-mer.
La crise sanitaire n'est pas derrière nous. Nous allons vivre pour encore plusieurs mois avec ce virus.
On l'a vu à la télévision à 20h nous parler de la situation en Afghanistan.
Nous resterons fraternellement aux côtés des Afghanes et des Afghans.
On l'a vu avec les forces de sécurité mobilisées contre l'incendie dans le Var.
Je veux ici, au nom de la nation, d'abord remercier l'ensemble de nos pompiers.
On l'a vu enfin au pupitre profiter de l'anniversaire de la libération de Bormes-les-Mimosas pour répondre encore aux antipasses et aux antivax.
Le général le disait souvent à ses compagnons. Les devoirs d'abord, les droits viendront ensuite.
Comme tous les étés désormais, ce séjour présidentiel à Brégançon n'a eu de vacances que le nom. Emmanuel Macron a profité de l'actualité pour rester en première ligne, histoire de laisser le moins d'espace possible aux manifestants du samedi et à ses rivaux pour 2022.
Déjeuner d'Emmanuel Macron prévu ce midi avec le Premier ministre Jean Castex avant le Conseil des ministres de rentrée mercredi prochain. L'Afghanistan et le nouveau régime taliban, on en parlait. La situation à l'aéroport de Kaboul est toujours chaotique. Nouveaux échanges de tirs ce matin. L'armée allemande évoque une personne tuée. Des Afghans essaient de fuir, pris au piège, au point que le président américain Joe Biden a ouvert la porte cette nuit à un maintien de soldats sur place au-delà de la date de retrait prévu le 31 août. Cyril Ardot a rencontré à Paris un artiste afghan qui espère l'arrivée rapide de ses proches.
Dans cette musique, Humayun chante l'Afghanistan, son pays qu'il a quitté il y a plus de 4 ans avec son frère et que 16 membres de sa famille, dont plusieurs musiciens, viennent de fuir.
Je rêve de les revoir. Je ne sais pas comment ce sera, mais j'espère que ce sera bientôt.
Ses proches ont pu prendre un avion pour la France, mais doivent respecter une quarantaine en raison du coronavirus. Humayun se dit aujourd'hui rassuré de savoir une partie de sa famille hors de danger.
Je n'ai rien mangé en 5 jours, je n'ai fait que pleurer. Dans sa fuite, mon père a été arrêté 2 fois par les talibans, mais il a réussi à s'échapper à chaque fois. Les talibans nous détestent, ils détestent les artistes. Ils sont venus dans notre maison pour chercher mon père, ils ne l'ont pas trouvé, mais ils ont arrêté un voisin à la place. J'ai peur pour le reste de mes proches.
À des milliers de kilomètres de Kaboul, l'évacuation de ces artistes et de leurs familles est organisée par une trentaine de structures, dont l'atelier des artistes en exil à Paris. Judith De Paul, la directrice.
On gère en essayant de rester rationnel, de raconter à des personnes qui ne connaissent pas encore ce type de processus d'urgence et de future demande d'asile, voilà, d'être extrêmement concrète et rationnelle et de dire comment les choses vont se passer.
Cette trentaine d'organismes tentent de mettre le plus de monde à l'abri, et notamment les femmes artistes, particulièrement menacées par les talibans.
Depuis leur entrée dans Kaboul il y a une semaine, les talibans tentent de convaincre la population qu'ils mèneront une politique moins brutale, mais cela n'indique pas le flot de ceux qui ne croient pas en leurs promesses et veulent partir. Un peu plus de 30 000 personnes ont été évacuées jusqu'ici. Évacuation difficile, douloureuse, a reconnu cette nuit le président américain Joe Biden, et qui nécessitera donc peut-être un maintien de troupes au-delà de la fin août. Des discussions sont en cours côté américain. L'étranger, c'est aussi ce matin un arrêt en Asie du Sud-Est pour notre série Protest Songs, à la découverte de la bande son des mouvements de contestation à travers le monde. Presque surprenante ce matin pour la dernière. C'est la K-pop, la pop coréenne, qui se mobilise en soutien aux manifestants à Hong Kong, en Thaïlande ou encore en Birmanie. Et c'est Cyril Sauvageau qui nous raconte.
Ce n'était qu'un clin d'œil discret aux manifestants, mais il s'est répandu comme une traînée de poudre à travers l'Asie. Dans un de leurs derniers clips, les superstars du groupe coréen BTS apparaissent munis de parapluies jaunes, une allusion évidente au mouvement pro-démocratie de Hong Kong. la K-pop serait-elle en train de se politiser ? Au départ, cette musique ultra-commerciale n'a rien de contestataire. Si les chanteurs partagent parfois leurs engagements sur les réseaux sociaux, ils ne passent pas spécialement pour des agitateurs. Mais ce sont leurs fans, très jeunes et hyper connectés, qui les poussent à l'action. La force de frappe colossale des communautés de fans de K-pop a prouvé son efficacité aux États-Unis, où $1 million a été récolté en soutien au mouvement Black Lives Matter. Et le même phénomène s'est reproduit à Hong Kong, à Bangkok ou à Rangoon. En Birmanie, des fans ont lancé une campagne pour soutenir financièrement le combat contre la junte depuis le coup d'État. Même chose en Thaïlande, où les sommes récoltées ont permis de payer les frais d'avocats de manifestants emprisonnés. Capables de se mobiliser instantanément et à distance, les fans sont devenus des acteurs incontournables dans cette Asie du Sud-Est en pleine ébullition, où la jeunesse est en première ligne du combat pro-démocratie. Yeah, yeah.
C'était notre série estivale Protest Songs, à retrouver sur franceinter.fr si vous avez raté les précédents épisodes. 8h11, la suite du journal avec vous Hélène Filly à Marseille. Quelle réponse face au règlement de compte qui se multiplie. 3 nouveaux morts ce week-end dans 2 fusillades. 4 jours après la mort d'un adolescent près d'un point de vente de drogue. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a promis des renforts. 300 policiers supplémentaires en 3 ans. Ce n'est pas suffisant pour le maire de Marseille Benoît Payan qui appelle à plus de réactions de l'État.
Il faut que l'État prennent la mesure de ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe à Marseille ? On a affaire à un crime organisé de niveau international. On a affaire à des trafics qui génèrent des millions d'euros par mois de bénéfices. Il faut s'attaquer à la racine. Il faut taper les trafiquants avec l'argent et avec les armes. Il faut que l'État crée un parquet spécial à Marseille. Il faut doter le parquet de moyens particuliers. La procureure de la République, elle fait ce qu'elle peut, mais elle n'a pas les moyens de taper fort. La justice à Marseille est sous-dotée. On ne tape pas des trafics de cette dimension-là avec des moyens qui ne sont pas à la hauteur.
Le maire de Marseille, Benoît Payan, invité de nos confrères de France Info ce matin, qui demande donc à l'État de créer un parquet spécial à Marseille. Marseille, Nice et cette fin de match désolante hier soir, tout a dégénéré à la 75e minute. Quand des jets de bouteilles de supporters niçois ont touché des joueurs, le meneur marseillais Dimitri Payet notamment, il a renvoyé le projectile en tribune, les supporters de colère ont envahi la pelouse, bagarre générale, longue discussion ensuite, Nice veut reprendre le match, pas les joueurs de l'OM. Jérôme Alonso, le consultant football de Radio France et ancien joueur des deux clubs atterrés.
Je peux comprendre que les Marseillais, dont on a pu comprendre que 2 ou 3 joueurs étaient touchés physiquement, ne veuillent pas reprendre le match. C'est responsable de la part de 100 sur 36 000, vous vous rendez compte ? Mais moi, toute ma vie, j'ai été victime de 50 ou 30, même abrutis, sur 50 000 ou 80 000. Mais ces 30-là font que notre métier et que les supporters sont pointés du doigt tout le temps. On passe pour des idiots, des abrutis, aux yeux de tous les autres sports aussi, parce que ça n'arrive jamais au rugby, jamais au basket, jamais au hand, jamais au volley, jamais nulle part, à part chez nous. Donc effectivement, encore une fois, là, la bêtise traverse les années. Mais j'insiste, la bêtise de 30 sur 36 000, c'est pas énorme, mais ça suffit à tout gâcher.
Jérôme Alonso, consultant football de Radio France, l'OM a en théorie perdu le match. Son refus de revenir sur le terrain équivalent à un forfait. Un incendie a arrêté hier dans le Var. Il tentait de mettre le feu à la forêt entre Le Rayol et Cavalaire. Des automobilistes qui passaient par là l'ont stoppé. Selon l'enquête qui est toujours en cours, cela ne semble pas être lié à l'incendie qui a fait 2 morts et qui n'est toujours pas maîtrisé dans le massif des morts à une vingtaine de kilomètres de là. Les massifs du Var et des Bouches-du-Rhône restent interdits aujourd'hui. Il fera chaud et il y aura beaucoup de vent.
Enfin, l'olympisme n'a pas fini de nous régaler.
Les Jeux paralympiques débutent demain à Tokyo et les chances de médailles en saut en longueur, en tennis, fauteuil, notamment pour la délégation tricolore, tout cela va durer jusqu'au 5 septembre. Et même pour les athlètes valides déjà rentrés, le plaisir continue. Kevin Mayer, médaillé d'argent en décathlon, était hier en Vendée pour une grande journée d'initiation. De la piste de Tokyo à la place de Saint-Jean-de-Mont, il n'y a qu'une petite foulée et un reportage de Mathieu Bonhour.
Le soleil tape fort sur la plage ce dimanche. Kevin Mayer attire tous les regards. Au javelot, le public soutient un des jeunes élèves.
Ouais ! Lancez un peu plus haut.
Le vice-champion olympique glisse quelques conseils aux participants pour s'améliorer, le tout avec une touche d'humour.
Si tu cries,
tu gagnes un mètre. Ok. Je veux entendre le cri du guerrier, ok. Ton cri, ça marche quand même. Franchement, ça marche.
Bon, Kevin, c'était le bon conseil. Bien joué.
Marcelin a 11 ans, il s'entraîne aux épreuves du décathlon. Son entraîneur lui a fait la surprise de venir ici.
Kevin Mayer est venu me coacher. Du coup, ça m'a donné de la force de lancer plus loin. Je l'avais déjà vu à la télé, mais jamais en vrai.
Les deux sont venus spécialement de la Creuse. Pour son entraîneur Thomas Giraud, il ne fallait pas rater cette occasion.
Là, c'est le cadre est fantastique de venir là. Voilà. C'est rare d'avoir un pro vraiment s'exprimer comme ça auprès des jeunes. C'est vraiment top.
Sur la promenade au-dessus de la plage, des passants s'arrêtent devant l'attroupement. Freddy et Jacques sont surpris.
Je le voyais un peu plus grand, mais par rapport aux autres, si, il est grand. Mais...
Quand même. Ouais. Il est baraqué.
Toute la journée, le vice-champion olympique de Décathlon a fait le tour des groupes pour donner quelques conseils et soutenir peut-être de futurs décathloniens.
Voilà, partager sa passion, c'était un reportage de France Bleu Loire-Océan. Et c'était le journal d'Hélène Philly. Coup d'œil tout de suite sur le ciel de ce lundi.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Marie-Pierre Planchon, ce ne sera pas un lundi au soleil en tout cas, pas sur la moitié nord où ça reste bien nuageux.
Et oui Hélène, parce qu'entre les brouillards épais au nord de la Bretagne et les nuages et les averses du nord Pas-de-Calais à l'Alsace, mais du nord-ouest à l'Île-de-France, vous aurez droit quand même à de belles éclaircies dès ce matin. Les grisailles sont présentes également vers le massif central, dans la région bordelaise, ainsi que sur le relief des Pyrénées, puis au sud de la Loire. Donc vous profiterez d'une matinée ensoleillée avec ce mistral et la tramontane qui se sont levés, ainsi que le vent d'ouest pour les caps corses et sous des températures contrastées toujours entre les 7 degrés relevés dans la Creuse et les 26 déjà à Calvi. Il fait 14 à Paris et 16 à Nancy.
Cet après-midi, le ciel va même s'éclaircir sur le nord-ouest.
Et oui, car on a, Hélène, le vent de nord-est qui va, comme vous savez, cette fameuse bise qui vient du nord, elle va commencer à dégager le ciel de la Bretagne au Pays de la Loire, au nord, avec encore une averse possible entre l'est du bassin parisien, la Lorraine, à la Bourgogne, et puis un orage pourrait éclater sur les Pyrénées orientales et le relief des Alpes du Sud. Et attention toujours au vent, le mistral et la tramontane et le vent d'ouest sur les caps corses qui vont se renforcer jusqu'à 70 km/h. Et côté du Mercure, on sera en dessous des normales près de la Manche et dans le nord-est. De 19 à Langres à 22 à Rouen. Vous aurez 23 à Bourges, 24 à Paris, 25 à Saint-Jean-de-Mont, 26 à Bordeaux, 30 à Marseille et Bastia, 30 à Manosque et Montpellier.
Marie-Pierre Planchon, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
8h17, géopolitique.
Le 6-9. Listen anywhere. Huawei, sur France Inter.
Et on retrouve Anthony Bélanger. Bonjour Anthony.
Bonjour Hélène, bonjour à tous.
On parle beaucoup ces derniers jours du fils du légendaire commandant Massoud.
Oui, parce qu'il semble avoir repris le flambeau de la résistance aux talibans, comme son père, entre 1996 et 2001, avant son assassinat par des sbires d'Al-Qaïda, deux jours avant le 11 septembre 2001, justement. Mais la légende du lion du Panjshir s'est écrite dès 1989, pendant 9 longues années. Ahmad Shah Massoud a résisté à l'invasion soviétique de 1979. Il a essuyé 9 offensives de l'armée soviétique retranchées dans son repère de la fameuse vallée du Panjshir et les a toutes repoussées. Il était devenu le symbole de la résistance afghane. À 32 ans, son fils Ahmad Massoud donc veut poursuivre la légende. Comme son père, il a créé non pas une alliance du Nord, mais un front de résistance nationale. Et comme son père, il s'est retranché dans le Panjshir.
Pourquoi est-il si important de contrôler cette vallée du Panjshir ?
D'abord pour le symbole, la vallée n'est jamais tombée pour la simple et bonne raison qu'elle est un fortin naturel. La seule route d'accès qui la parcourt de part en part longe la rivière et les sommets à 4000 mètres de l'Hindou Kush en guise de muraille imprenable. La deuxième raison est sa position stratégique à environ 70 km au nord de Kaboul. Par la province du Panjshir passe l'essentiel du trafic routier et commercial entre Kabul et Kunduz ou Mazar-e-Sharif. En clair, vous coupez la route et vous coupez le pays en deux. Et puis la troisième raison est que cette région est en majorité peuplée de Tadjiks mais aussi d'Ouzbeks et d'Hazara. Autrement dit, elle est peuplée des minorités qui ont le plus à craindre d'une domination des talibans. C'est un puissant moteur de résistance.
Alors, est-ce que le fils du commandant Massoud, ça va suffire pour résister aux talibans ?
Bon, d'abord, c'est un bon début en Afghanistan, où les fils d'eux ont toujours repris les réseaux et alliances familiales. Au sein même de la direction talibane, vous avez le fils du Mollah Omar, et les deux fils Haqqani, chef taliban redouté et tué en 2018 par les Américains. Mais c'est la réussite du commandant Massoud, père, et des siens de l'Alliance du Nord, tient à deux périodes unique unique de l'histoire. La guerre froide, pendant laquelle il a été appuyé contre les soviétiques par les occidentaux, et le nation building de l'après 11 septembre. Or, la guerre froide est terminée, et Joe Biden a refermé la parenthèse néoconservatrice du nation building, qui consistait grosso modo à apporter la démocratie en commençant par bombarder, en clair, une vision à peine modernisée du colonialisme.
Oui, ça donne bien peu de chance tout ça de réussite au fils Massoud.
D'autant que les États-Unis et l'Occident en général n'interviendront plus en Afghanistan, encore moins pour donner des armes et des moyens financiers à une résistance pour le moment hypothétique. De plus, le commandant Massoud avait un joker de plus, en plus des États-Unis. Il pouvait se replier au Tadjikistan ou en Ouzbékistan. Ce n'est plus le cas. Les deux pays sont très proches de la Russie et ont fait savoir qu'il fallait compter sans eux. Quant à l'Iran, tant que les talibans n'oppresseront pas les Hazaras chiites, eh bien, il ne s'en mêlera pas. La partie semble donc mal engagée pour Ahmad Massoud. Et c'est plutôt une chance, cette adversité extrême, pour ce jeune homme passé par les meilleures universités occidentales, dont la prestigieuse école militaire britannique de Sandhurst. Un jeune homme qui veut se hisser à la hauteur de la légende paternelle.
Merci Anthony Bélanger. À demain. À suivre, deux membres du conseil scientifique dans le grand entretien de la matinale. Restez avec nous sur Inter.